Je vous dis tous à tout le monde, bon fin de semaine. J'espère que vous êtes satisfaits de mon côté. Vraiment, si l'on est saisi, que c'est ma hachouroution, Paris, Chapata Verchme, Amenaï Siroviev, Harkankov, Tseredé, Imek, Janva, Deveru, Tiamp. Je pense que c'est bien que l'acte Tiamp. Vraiment, Mishmish, Bidisharna Genk, Aïs Haïda Kire, Charna Gilov, Kassan, Hink, Tarva, Deveru, Tiamp. Vraiment, Yé, Bidisharna Genk, Michev, Ir. Միջև որ ողջն լանգսենք, ուրեմն ցեզի գսեմ հաջողություն, մերսի շատ ձեր ազնիվ ունգոտության համար և դարձյալ գսեմ ցեզ հաջողություն, բայ-բայ։ Վիդիոն գտրենք Կարնիկ Սարկիսյան և Սևակ Ամրոյան, զգուշ խոսիր Հայաստանում։
Խոսիր Հայաստանում Այստեղ ամեն գագաթուցով Արձագանք է տալիս հզոր Եվ քո խոսքը հեռու տանում Թե բարի է խոսքերը քո Հայոց լեռներ ակնածանքով կխոնարեն քո դեմներին Բաշը քսած քո ձեռքերին Իսկ թե չարը լեռները
Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard.
sabu yer koi yer ter sabu yer koi bangu yer kamba isaben bangu yer ga yer ter sabu yer koi halaburi
et bienvenue sur les 80.4 de la bande FM Radio Galère, les www.radiogalère.org et sur le DAB numérique DAB Plus Canal 8C. Votre émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis 11h, 12h30 avec Lamine et Richard. Venez échanger, dialoguer, discuter avec nous au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10.
Le Dharma Sopla. Yay sukar ci ragalu ma jabet te fe ki fe lu tax ma beug la lu tax ma sopp la yay sukar ci ragalu ma jabet tu fe rêve dañ ma ni tan ma jox la sama volant bébé dawalal dawalal yay borom talibi mayal katibi la juma la permis non 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 yow do ñom ba xol bi réré ci mbeugël ya ko for ya ko for ku ci mer tant pis ku ma bëgg na ma baye ak sama honey honey yama def ni ma mel mala nop dama bardé ci yow mala nop da nga sori ci man mala nop tax bugu ma ñu wét nax da nga sop yama def ni ma mel mala nop dama bardé ci yow mala nop da nga sori ci man mala nop tax bugu ma ñu wét nax da nga sop lutax ma bëgg la lutax ma sop la
Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, de vous retrouver de 11h à 12h30. Et comme l'a dit Richard en début d'émission, venez user et utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Donc aujourd'hui pour l'émission, nous avons tout simplement beaucoup, j'ai beaucoup de colère. Voilà, beaucoup de colère. Et donc, d'ailleurs, sachez que notre invité sera tout simplement M. Moussa Balla Fofana, qui vit ici du côté du Canada. Et oui, Richard, nous avons donc beaucoup d'auditeurs maintenant de l'autre côté, en tout cas, de... Amérique. Voilà, aux en États-Unis, Amérique. En Amérique, tout ça. Parce qu'on a reçu quand même Baba Aïdara, lui aussi, qui se levait à 5h du matin du côté des États-Unis. On a aussi eu Madame Hélène Françoise Gueye. Voilà. Et aujourd'hui, ce sera autour de Moussa Balla Fofana. Je sais que notre envoyé spécial est à l'écoute. Matarli, depuis le Canada, il est déjà, j'en suis sûr, réveillé. Voilà. Donc, notre panéliste de ce côté-là, en tout cas, ça nous fait plaisir que de ce côté-là, c'est extrêmement tôt, mais c'est pour l'intérêt du Sénégal, c'est pour le peuple du Sénégal. Donc, Monsieur Moussa Balla Fofana, qui est un ancien conseiller technique. Je ne sais plus quel ministère d'ailleurs, ministère du Plan, voilà, au Sénégal en 2012-2013. C'est un banquier d'affaires, c'est le directeur de financement entreprise à la Banque nationale du Canada. C'est un expert en ingénierie de la planification et gestion de projets de développement économique. Et oui, Richard, on a un monstre là, on a un véritable intellectuel avec nous. Et donc, avec lui, nous allons parcourir l'actualité un peu du Sénégal. Et si vous avez une ou deux questions, il n'y a aucun souci, vous pouvez appeler à l'antenne pour lui poser la question. Voilà, et puis moi, j'essaierai vraiment de vous parler de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Parce que c'est une hérésie, c'est une honte, vraiment, de voir nos ministres se bagarrer là-bas au Conseil constitutionnel pour un simple dossier de candidature, mais aussi ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale avec des députés, on voit que finalement, nos institutions sont devenues, Richard, des arènes nationales. Voilà. Vous allez me dire tout simplement un dépôt de dossier de candidature. Oui, ce n'est pas simplement ça. On va y revenir. Effectivement, Benno Bokoyakar, avec l'ancien Premier ministre, ont eu raison de se déplacer très tôt. Mais le problème qu'on se pose, c'est pourquoi ces précipitations ? Voilà, je vous donnerai mon avis, ma réaction. Peut-être vous serez d'accord, peut-être pas. Voilà, en tout cas, c'est l'intérêt de cette émission. On échange, on dialogue, on discute sur le plan intellectuel. Et puis, j'ai une deuxième question, mais ça, après, on en reparlera. Mais quelle stratégie de l'opposition sénégalaise face au président Macky Sall ? Parce que quand même, le président Macky Sall, mais il est dans son rôle. Il est dans sa stratégie de conservation du pouvoir. Donc, il est en train... Je ne sais pas comment il le fait en tout cas, mais il est en train de pêcher, comme il le dit, de très gros poissons. Maintenant, Richard, mais face à cela, je vais vous faire un tout petit peu, en tout cas, la genèse, en tout cas, la liste certainement de beaucoup de personnes qui ont migré vers la prairie verte. Mais qu'est-ce que l'opposition fait ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a le droit d'avoir 30 candidats face au président de la République qui se targue de gagner les élections présidentielles au premier tour avec 54%? Est-ce qu'en fonction de cela, on ne devrait pas, je parle de l'opposition, voilà, devrait pas tout simplement mettre en place une certaine stratégie pour contrer le président de la République? Voilà, ça aussi, c'est un débat qui est ouvert. Mais en attendant, Richard, nous allons parler un tout petit peu de la colère qui ne... que les Marseillais ne décolèrent pas. Voilà, hein, cette émission, le plateau du Sénégal, part de Marseille. Donc on parlera des Marseillais. Les Marseillais ne décolèrent pas. Voilà, et comme vous le savez, les gilets jaunes sont déjà au Vieux-Port. Et oui, M. Macron nous a fait des annonces. Bon, je ne vais pas y revenir, ça a été débattu donc, sur toutes les chaînes de télévision et de radio. En tout cas, les gilets jaunes sont déjà au Vieux-Port ici à Marseille. Les étudiants aussi sont dans la rue. La CGT, le syndicat, dans la rue. Et surtout, le collectif Noailles en colère est aussi aujourd'hui dans la rue. Donc, il y aura plusieurs manifestations. Surtout quand on voit ce qui s'est passé cette semaine, jeudi, avec l'émission spéciale, envoyé spécial sur Marseille, avec l'effondrement de l'immeuble qui a fait quand même, Richard, 8 morts. Mais c'est hallucinant. que les élus de la mairie nous mentent comme ça devant tout le monde en nous disant qu'ils n'étaient pas au courant, alors que Élise Lucet, cette excellente journaliste de France 2, a démontré le contraire. Ils étaient tous au courant. Et donc aujourd'hui, l'irresponsabilité de la mairie, mais de toute façon, on le savait, voilà, elle est encore vraiment pointée du doigt. Ils n'ont pas tenu compte de l'avis des experts qui ont signalé le danger que pourraient subir les occupants de ces appartements. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, 8 morts dans l'effondrement de l'immeuble de la rue d'Aubagne. Voilà, avec bien sûr notre compatriote Nias, voilà, qui a perdu la vie avec les autres. Et puis, je rajoute quand même, sur ce drame de la rue d'Aubagne, Richard, nous avons perdu une certaine Zinab Redouane. 80 ans, lors des manifestations, 4e étage qui fermait ses volets, une grenade lacrymogène, elle est morte. Voilà, donc Marseille a eu vraiment 9 morts par rapport à tout cela. Donc c'est bien de rappeler cela et d'encourager toutes ces personnes comme Kaouter Ben Mohamed qui se battent et les autres, voilà, pour retrouver, pour que les Marseillais, Noailles en colère, retrouvent la dignité pour que ces personnes puissent être tout simplement réintégrées dans des appartements, les survivants bien sûr, et ceux qui malheureusement ont perdu la vue, la vie. J'espère tout simplement que les indemnisations seront en tout cas à la hauteur de l'irresponsabilité de toutes ces personnes qui ont eu à gérer en tout cas ces immeubles de la rue d'Aubagne. Et malheureusement, nous avons vu que plus de 2000 personnes ont été évacuées et c'est encore toujours le médecin après la mort. Voilà, donc Richard, un tout petit peu de musique et très rapidement, on va chercher notre invité et après, on débattra ensemble de tout jusqu'à 12h30.
Mon casque.
Voilà Richard, donc dans cette émission, l'heure file très vite. Voilà, et chaque fois, malheureusement, beaucoup d'auditeurs n'arrivent pas à rentrer. Donc du coup, voilà, on va écourter la musique et aller chercher très rapidement notre invité, vraiment qui s'est réveillé très tôt. Voilà, il me semble qu'il est autour de 5 heures du matin au Canada. Et on va voir si notre invité est bien là, M. Moussa Ball Fofana, qui est tout simplement un ancien conseiller technique au Sénégal, qui est un directeur de financement entreprise à la Banque nationale du Canada, un banquier d'affaires. Voilà, cet ingénieur en planification et gestion de projets développement économique est notre invité. Allô, allô?
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour, M. Moussa Ball Fofana.
Bonjour, mon cher. Comment allez-vous?
Ça va et vous?
Ça va très bien, merci.
Voilà, donc vous êtes bien sur les ondes de Radio Galère. Nous sommes écoutés partout à travers le monde sur www.radiogalère.org, sur la bande FM le 88.4. Et Richard, on est écouté où aussi?
Sur le DAB+, canal 8C.
Voilà, donc votre parole porte. Et tout simplement parce que aussi votre voix porte, je vous ai écouté. Beaucoup de personnes m'ont recommandé de vous avoir à l'antenne et donc ça me fait plaisir que vous ayez dit oui à mon invitation. Et donc pour rentrer très rapidement dans le vif du sujet, on va parler économie. Comment se porte l'économie du Sénégal?
Merci beaucoup. Et il y a Richard qui est celui.
Hein? Merci.
On vous entend très mal, là, Richard. On l'entend pas du tout. Allô?
Allô, oui, vous m'entendez?
Là, ça va mieux, oui.
Très bien. Je pense qu'il y a un retour aussi.
C'est pas normal. On va peut-être changer, Richard, parce que je l'entends plus déjà. Bon, on va y revenir. On va essayer de vous rappeler et qu'on essaie de faire, donc, Richard, un peu de musique, oui, le temps qu'on le retrouve comme il faut, parce que je l'ai totalement perdu. Voilà, donc Richard, un tout petit peu de musique, après on revient avec notre invité. Marias to bend the fun, do nyari fun. Like a nanny don't dry. Funny fun, look back and then you call. Sit me down. Baby, there's a day. You see, there's a day. Why am I a toad? My sick of two bed. Don't want to damn it, baby. My girl, let me. Why am I a toad? Look it, look at it. Look it, look at it. My girl, let me walk down. Voilà, Richard, je pense on l'a retrouvé. Allô?
Oui, allô?
Voilà, donc là, on vous entend très bien.
Excellent.
Voilà, donc je vous disais que comme vous vous y connaissez en économie, j'aimerais la première question pour nous introduire dans le débat. Comment se porte l'économie du Sénégal, même si je connais votre réponse déjà?
Alors, merci beaucoup. L'économie du Sénégal se caractérise par trois éléments, hein, si je veux vous aider à avoir une idée précise. C'est que premièrement, l'activité économique n'a pas fait reculer la pauvreté. Hein. La pauvreté est toujours à 46,7. Donc voilà un premier élément parce que l'économie, c'est la création de richesses et on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré une activité économique sur ces huit dernières années, nous sommes toujours en pauvreté qui tourne à 46,7. Mmh. Deuxième élément, c'est la situation budgétaire qui est liée au fait qu'on n'arrive pas à créer de la richesse. C'est qu'aujourd'hui, le pays est en tension de trésorerie. Ça veut dire que les recettes ne parviennent pas à couvrir tous les engagements de l'État. Et alors, il y a une baisse de la création de richesse. Il y a une mauvaise gestion des dépenses. Mmh. Et il y a un endettement qui est très élevé. Si vous combinez tout cela, vous comprendrez aisément pourquoi aujourd'hui la pauvreté n'a pas reculé. Vous comprendrez pourquoi le gouvernement n'arrive pas à ne payer ne serait-ce que la dette intérieure, hein, qui est l'argent qu'on doit aux entreprises à l'intérieur du pays. Mmh. Et tous ces éléments-là sont la preuve que l'économie n'avance pas. Mais en même temps, on va vous dire, on a fait un taux de croissance de 6%.
Tout à fait.
C'est ça qu'on va vous dire. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce taux de croissance ne sert à rien, il faut comprendre, il faut déjà savoir que sur 8 entreprises au Sénégal, sur 10 entreprises plutôt, les 8 appartiennent à des étrangers. Et l'économie sénégalaise est dominée par les entreprises étrangères. Et en économie, il y a ce qu'on appelle le produit intérieur brut, qui est l'ensemble des richesses qui sont réalisées à l'intérieur du pays. Mais il y a le produit national brut. Et les entreprises qui font de la richesse, qui à la fin de l'année font des bénéfices, ils font ce qu'on appelle un rapatriement des capitaux. Donc la richesse ne reste pas. Donc voilà pourquoi quand vous entendez des taux de croissance extraordinaires dans mon pays, malheureusement, les gens n'en profitent pas parce que nous ne sommes pas en train de bâtir notre propre tissu économique pour que la richesse créée reste, mais on est en train de créer de la richesse et cette richesse est captée par les entreprises étrangères.
D'accord.
Ce qui a accéléré tout cela, pour que je terminerai sur ce point, c'est que depuis que le gouvernement de Macky Sall est là, nous avons toujours une structure budgétaire qui 94% des recettes pour le personnel de fonctionnement et payer la dette. Et nous avons chaque année près de 1 000 milliards qui sont empruntés, qui sont prêtés à des entreprises pour réaliser des travaux et à travers particulièrement des offres spontanées de 50 milliards et plus et d'autres projets. Et tout cet endettement-là est capté par les entreprises étrangères. Donc vous comprendrez que depuis que le gouvernement est là, ces 4 000 milliards qu'on a injectés dans l'économie, ces 4 000 milliards ont été captés essentiellement par des entreprises étrangères. Donc vous comprendrez pourquoi on quitte 3% pour aller à 6%. Mais vous comprendrez toujours pourquoi la pauvreté n'a pas reculé, 46,7. Vous comprendrez que quand vous empruntez 4 000 milliards, votre service de la dette passe de 300 milliards à 800 milliards. Vous fonctionnez avec 252 milliards en plus. Votre personnel augmente de 300 milliards en plus. Si vous additionnez l'augmentation du paiement de la dette, 510 milliards, le fonctionnement, 252, et le personnel, 300 milliards, vous l'additionnez de 2012 à 2008, c'est 1 000 milliards qui ont augmenté dans le fonctionnement du Sénégal. Eh bien, 1 000 milliards, c'est l'équivalent de la hausse des recettes de 2012 à 2018. En 2012, les recettes étaient à 1 417. On espère que ça va passer à 2 500. Si vous faites la différence, c'est 1 000 milliards. Donc, vous comprendrez que nous avons un gouvernement qui n'est pas les Sénégalais à créer de la richesse, dont le coût de fonctionnement est à la hauteur de la création de richesse, et il s'endette pour donner aux entreprises étrangères, et le taux de croissance n'est pas ressenti. Voilà la situation du pays.
D'accord. Donc, à vous écouter, rien ne va au pays, bien sûr, sur le plan de l'économie. Et moi, j'ai comme l'impression que vous faites une fixette, une sorte de fixation sur le président Macky Sall. C'est vrai que quand je regarde votre parcours, je suis vraiment en admiration. Voilà. Mais excusez-moi de vous le dire, je ne suis nullement subjugué par votre CV, car le Sénégal a connu de grands économistes et le peuple du Sénégal ne cesse de souffrir. Juste, voilà, pour le début de l'indépendance à nos jours, on a connu quand même Moussa Touré, vous êtes un économiste, vous devez le connaître. On a connu Mamadou Seck, Abdoulaye Diop, Mamadou Lamine Loum, Amadou Ba aujourd'hui, pour ne citer que ces gens-là. Et quand même, le Sénégal a toujours ce gap qui nous sépare justement de ces pays occidentaux. Et vous parlez des 1 000 milliards. Est-ce que justement, ce n'est pas un signe que le plan Sénégal émergent vient de nous monter?
Alors, vous avez cité des grands économistes pour qui j'ai tous beaucoup de respect, particulièrement Mamadou Lamine, qui, il y a 6 mois, a confirmé ce que moi j'avais dit il y a 1 an, que le pays était en faillite technique et que personne ne voulait m'écouter. Quand j'ai écrit un article sur Dakar Actu, après avoir analysé les ratios financiers du Sénégal, j'avais prévenu. Et il a fallu que Mamadou Lamine et FMI et Banque mondiale confirme pour qu'enfin que les gens reconnaissent que le pays est en train. Maintenant, moi, dans votre question, vous avez cité des personnes pour dire qu'ils ont été là, malgré ça, le Sénégal n'avance pas. On est toujours dans cette logique de penser que le pays se développe parce qu'on a quelques bons économies, ce qui est une approche qui est totalement fausse. Ce qui fait avancer un pays, ce ne sont pas quelques grandes économies, c'est une économie. Et quand les agriculteurs arrivent à vivre de ce qu'ils font, et quand les pêcheurs arrivent à vivre de ce qu'ils font, et quand on réussit l'industrialisation, et quand le gouvernement n'utilise pas 90% des recettes pour fonctionner, mais utilise au moins 50% des richesses pour réinvestir dans l'éducation, la santé, la sécurité, parce que ce sont les Sénégalais qui créent la richesse, ce n'est pas quelques hommes, encore une fois. On a besoin d'institutions fortes, on a besoin de bâtir une économie. On ne doit pas être là dans la logique de rechercher des personnes. On ne doit pas se focaliser sur Macky Sall. En même temps, on ne doit pas se focaliser sur quelques métiers de l'époque. C'est une approche que moi, je n'ai pas. Et que je considère importante, c'est que nous avons des bras et des cerveaux. Nous avons des ressources qui nous font bâtir des bases défensives de notre économie. C'est ça dont il est question.
D'accord. Mais aujourd'hui, quand on vous écoute, parce que voilà, j'ai préparé l'émission, je vous ai lu, je vous ai écouté, etc. Je vous entends parler donc de mettre un coup d'arrêt à la croissance exponentielle de la dette. Donc, je vous cite, hein, il faut arrêter la croissance donc de cette dette. Il faut augmenter les recettes. Il faut de la justice au Sénégal. Il faut protéger l'environnement. Il faut une planification spéciale. Il faut. Et vous nous dites jamais comment. Vous êtes un économiste, dites-nous comment sortir de ce gouffre.
Absolument. Pourquoi comment? Vous savez, un budget, c'est des recettes et c'est des emprunts. Mmh. Le danger de l'emprunt, c'est que si vous empruntez 1 000 milliards pour payer en 10 ans, par exemple, 100 milliards, vous devez payer 100 milliards à chaque année, 100 milliards vont venir réduire les recettes parce que vous devez payer ce que vous avez. Maintenant, moi, je vais juste vous proposer et vous donner ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prochain gouvernement qui arrive devra limiter les dépenses. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous trouvez qu'actuellement, on paye tant de milliards en personnel, tant de milliards en fonctionnement et tant de milliards en dette, il faut éviter d'augmenter le fonctionnement du pays. Parce qu'on est déjà à 94% des recettes pour le personnel, le fonctionnement et la dette. Et il faut aussi se concentrer, au même temps où on bloque les dépenses, il faut se concentrer sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'entreprise sénégalaise, sur l'entrepreneur. Je vais vous donner un exemple. De 2001 à 2008, les Sénégalais ont fait passer les recettes de l'État de 550 milliards à 1137. C'est-à-dire que sur 8 ans, les Sénégalais ont été capables de doubler les recettes de ce pays. Et de 2012 à 2019, nous n'avons pas été capables de doubler les recettes. Les recettes ont augmenté d'environ 50 à 60%. Donc, ce qui veut dire que quand on a un État qui a comme priorité la sécurité, la santé et l'éducation, qui propose un bon aménagement du cadre de vie et du milieu de vie, et qui se concentre sur l'entreprise sénégalaise et l'entrepreneur sénégalais, on permet aux populations de créer eux-mêmes leurs conditions de vie et de créer de la richesse. Pour sortir le pays de cette situation, il faut bloquer les dépenses, permettre aux Sénégalais de mieux travailler, de mieux produire, comme nous l'avons fait de 2000 à 2008, doubler les recettes dans les 6 prochaines années, parce que c'est le meilleur indicateur de l'activité économique.
Donc vous, si vous êtes en France, vous ne serez jamais un gilet jaune. Parce que nous, ici, on se bat pour éviter l'augmentation, justement, de nos impôts, de nos taxes. Et vous, vous voulez aller encore chercher dans la poche des Sénégalais qui sont pauvres, c'est ça?
Absolument pas. Vous n'avez pas compris. Vous savez, quand vous dites les recettes vont amener plus, ce n'est pas augmenter le taux de pourcentage, mais c'est permettre la création d'entrepreneurs, la création d'entreprises. Vous pouvez garder le même taux d'imposition sur les bénéfices, sur les salaires et sur les transactions. Mais quand vous mettez en place les dispositifs qui permettent la création de richesses, je vais vous donner un exemple. Le président Macky Sall a pris 1 600 milliards pour le mettre dans un train de 50 km plus 50 trajets, 50 km de trajet, et on va lui livrer 15 trains environ, 15-17 trains. Vous allez en Afrique du Sud, ils ont pris 2400 milliards, mais ils n'ont pas été achetés des trains. Ils ont dit à Alstom, vous venez installer une usine chez nous, nous allons être propriétaires de 50% des actions, et sur 30 ans, vous allez nous produire près de 400 trains, et vous allez faire perdre le maillage de tout le territoire de l'Afrique du Sud. Vous me direz que le Sénégal n'a pas la taille de l'Afrique du Sud. Mais c'est là que je vous dirais qu'en tant que corne de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal doit avoir une vision qui doit aller vers la Mauritanie, le Burkina, le Mali. Donc si nous avions une approche qui nous permet de mettre en place une entreprise ferroviaire dans une logique d'aller chercher des emplois et de capter les dividendes, là vous voyez qu'on crée de la richesse sans pour autant augmenter les impôts. Donc quand je parle économie, quand je parle recettes, je parle d'activité économique, je parle de volume. Si nous permettons aux Sénégalais d'être des entrepreneurs, si nous accompagnons les hommes d'affaires sénégalais, qu'est-ce que dit le président Macky Sall à chaque fois qu'on lui dit, le secteur privé national, qu'est-ce qu'il dit? Le secteur privé national n'est pas fort, ils ne sont pas bons, on va leur donner des miettes. Alors que quand Macron se déplace, il est accompagné par les services. Par les leaders économiques de la France. Pourquoi le Macky Sall n'est pas aux côtés de l'agriculteur sénégalais? Je vous donne un exemple encore. Les agriculteurs sénégalais, grâce à la pluviométrie, ont produit près de 500 000 tonnes. On est passé de 700-600 vers plus d'un million de tonnes. Ce que le gouvernement avait compris. Et avait mis en place une politique d'industrialisation et de diversification des produits pouvant provenir de l'arachide. Aujourd'hui, on ne serait pas dans une situation où les agriculteurs ont produit plus, ont vendu moins. Aujourd'hui, la valeur de l'arachide a chuté parce que les cultivateurs ont bien travaillé. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, Macky Sall va en Mauritanie pour négocier des licences de pêche. Pourquoi on négocie de l'emploi pour des Sénégalais en Mauritanie? Parce que les Mauritaniens ont investi dans l'industrie de la farine de poisson. Pourquoi les gendarmes mauritaniens maintenant protègent la frontière au niveau de Saint-Louis et ne veulent plus que les pêcheurs sénégalais viennent prendre le poisson pour le ramener? Parce qu'ils savent qu'ils ont une industrie. Ils ont besoin de matières premières. Si nous avions réussi l'industrialisation des produits de la pêche, si nous avions réussi l'industrialisation des produits de l'arachide, si nous avions réussi la disponibilité de l'eau pour les animaux, on aurait plus de lait, plus de viande, on aurait plus d'emplois. Les licences de pêche, on n'aurait pas besoin de prendre nos fils de Guédard pour les amener à Saint-Louis, en Mauritanie, pour qu'ils travaillent et qu'on leur demande de déverser la totalité de leur pêche en Mauritanie et de rentrer au Sénégal avec des maigres salaires. Comprenez, quand on échoue sur notre capacité à faire le lien entre le secteur primaire et le secteur industriel, ils sont comme les deux jambes d'un être humain. Le primaire et le secteur secondaire et le secteur primaire sont comme les deux jambes d'un être humain. Si vous produisez, vous ne transformez pas, la production va inonder le marché, la valeur de ces biens va chuter, et l'année prochaine, les gens n'auront plus envie de produire de l'arachide, parce qu'ils savent que la valeur ne vaut plus rien. Je vous donne le même exemple au niveau de la pomme de terre. On a laissé les Indiens venir au Sénégal produire des pommes de terre et on leur a permis d'avoir des moyens de conserver leurs pommes de terre. Si vous êtes capable de conserver votre pomme de terre pendant un an, vous êtes capable de maintenir un prix bas de la pomme de terre sur 12 mois. Alors que le producteur sénégalais, lui, n'a pas les moyens de conserver. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il produit et il vend au plus bas prix parce qu'il sait que ses produits ne peuvent pas être conservés. Le résultat, c'est quoi? L'année prochaine, tous ceux qui se sont mis à produire ce produit-là ne le feront plus parce qu'ils ne peuvent pas le conserver. Et les Indiens sont plus forts sur le marché parce qu'ils ont un produit conservé pendant plusieurs mois.
OK.
Le Macky Sall n'est pas aux côtés de l'homme d'affaires sénégalais, de l'entrepreneur sénégalais. Un gouvernement a comme mission de permettre la croissance de l'activité économique. si vous travaillez en 10 ans, au lieu de 5 entrepreneurs, vous en avez 10, même si vous prélevez toujours 18% des bénéfices, vous venez de doubler vos recettes tout en n'ayant pas touché au pourcentage de prélèvement. Et encore, si vous parvenez à doubler vos recettes, vous allez pouvoir quitter 18 pour aller vers 16% au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour être encore plus compétitif. Donc vous voyez que moi, je parle en termes de volume. Je ne parle pas en termes d'augmenter le pourcentage.
D'accord. Donc là où vraiment nos économistes, je vais dire, pratiquement ont échoué, tous ces grands noms que je vous ai cités, j'espère qu'en tout cas cette génération que vous incarnez, vous arriverez tout simplement à nous propulser vers des lendemains meilleurs sur le plan économique. J'en profite justement pour faire une dédicace à tous nos amis Saint-Louisiens, ça m'en boit condamné, yep, manglendi, dédicacé, notamment Nyom Nafidje, parce qu'ils sont aussi à l'écoute. Et puis, certainement, un jour, on fera une émission aussi spéciale sur la langue de barbarie. Et même le maire de Saint-Louis que j'ai entendu, Massour Faye, il a dit que Saint-Louis a la chance de me voir comme maire. Donc, ça, après, yen, digen ti mon wartan. En tout cas, yen Nafi, donc, palah yen, yop, nyonglendi, nouyou. Voilà. Donc, pour revenir, justement, avec notre invité, nous sommes donc avec monsieur Moussa Ball Fofana, qui est un banquier d'affaires, directeur de financement entreprise à la Banque nationale du Canada. Donc, M. Ball Moussa Fofana, si je vous écoute, donc finalement, le plan Sénégal émergent, ce n'est pas tout simplement, ce n'est pas du tout un levier économique pour le Sénégal.
Mais écoutez, le plan est un plan qui est venu en retard. Vous savez, quand vous prenez les rênes d'un pays et que vous restez 2 ans avant de poser un plan, c'est que vous avez un problème quelque part. Ensuite, l'émergence, c'est quand vos entreprises commencent à mettre sur le marché des produits qui n'existaient pas avant, des produits qui commencent à concurrencer les autres produits. C'est pas un marché qui émerge, c'est des entreprises qui aujourd'hui commencent à concurrencer les autres économies et à gagner des parts de marché. C'est ça la notion d'émergence. Et vous dites que vous voulez émerger, et vous pensez que ce sont les experts des autres pays qui vont vous donner le plan pour concurrencer leur propre économie. Ce n'est que l'ignorance de la notion d'émergence qui pourrait permettre de croire que ce plan importé pourrait nous permettre, nous, de nous imposer sur le plan économique. Au-delà, vous ouvrez le plan Sénégal émergent, vous voyez que le plan d'action prioritaire, les 9 000 milliards que nous comptons investir dans les 5-10 ans qui sont devant, vous regardez où est la répartition géographique ou sectorielle plutôt de ces 9 000 milliards. Vous vous rendez compte que 80% des 9 000 milliards sont dans le secteur tertiaire. Et là où sont les Sénégalais, le secteur primaire et le secteur secondaire, ne reçoivent même pas 20% de l'investissement qui est pourtant réalisé à partir d'emprunts que vont payer les générations futures. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voyez l'enjeu quand vous ignorez l'économie de ce pays. Moi, je ne suis pas du genre, je ne suis pas contre le capital étranger. Mais je ne suis pas d'accord que 80% des entreprises au Sénégal soient détenues par des étrangers. Si on arrive demain, on ne va pas dire aux étrangers, partez. Mais on va travailler pour qu'il y ait 5 entreprises, 6 entreprises de plus sur 10 qui appartiennent à des Sénégalais. Nous voulons que les Sénégalais s'enrichissent. Ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait plus d'entreprises sénégalaises, plus d'hommes d'affaires sénégalais, plus d'entreprises sénégalaises. Il faut que les Africains comprennent que le combat de l'Afrique, le combat contre la pauvreté, le combat contre l'assimilation, tous ces combats-là passent par le combat économique. Nous devons maîtriser notre économie. Parce que si nous ne maîtrisons pas notre niveau de vie, nous ne pouvons pas conserver notre mode de vie et nous allons perdre notre milieu et notre cadre de vie à bas de pain. Le plan Sénégal émergent est un plan d'échec économique. Aujourd'hui, techniquement, le gouvernement est en faillite. Le gouvernement ne peut pas payer Sénélec. Le gouvernement ne peut pas payer les enseignants. Le gouvernement ne peut même pas payer les restaurants des étudiants. Le gouvernement ne peut pas payer les écoles privées. Le gouvernement n'arrive plus à payer les entreprises qui sont à l'intérieur du pays. Il y a une dette intérieure mais qui est aujourd'hui en train d'augmenter de jour en jour. Donc le plan Sénégal émergent, je suis désolé, un an après, quatre ans après, on se rend compte que le Sénégal n'a jamais vécu de tension de trésorerie.
D'accord. En tout cas, vraiment, merci pour tous ces éclairages. Richard, je crois qu'il y avait quelqu'un qui a appelé. Il est parti. Bon, voilà. Donc, si vous avez envie de poser une ou deux questions, donc vous pouvez, avant qu'on laisse notre invité aller se rendormir ou vaquer à ses occupations. Voilà. Et puis, donc, je pense, donc, il y a Nyop à Poupon, donc, depuis Canada, Gilzo, depuis l'Espagne. Voilà. Vous êtes tous à l'écoute et n'hésitez pas, bien sûr, à lui poser des questions. Voilà, et puis quand on vous écoute, je sens quand même quelque part que vous dites « nous voulons, il faudrait que la jeunesse ». J'ai l'impression que vous avez envie d'être peut-être un homme providentiel, tout simplement peut-être un futur candidat à quelque chose au Sénégal.
Vous savez, je ne crois pas, et je vous l'ai dit, aux hommes providentiels. Il y a une chose que vous... votre phrase tout à l'heure, et j'ai noté, et que j'ai beaucoup apprécié. Vous avez dit notre génération. Mmh. Moi, ce dont je crois, c'est le combat des générations. Je ne crois pas à un individu qui serait là. De toutes les façons, si vous réussissez, si une nation accomplit de grandes choses grâce à une personne, le jour où cette personne passe par, tout ce qu'il avait réussi va s'effondrer comme un château de cartes. Alors que l'objectif d'un leader, c'est de permettre aux générations futures de lui survivre. Encore une fois, les pays de l'Afrique ne seront jamais relevés par un ennemi. Notre génération a devant nous le défi du développement. Mmh. C'est à nous maintenant de relever ensemble ou de faillir ensemble. Tout simplement. Mais je ne suis pas des messies. Moi, je suis... mon parcours est ce qu'il y a de plus ordinaire. Je suis un fils du Baol, fils d'enseignant, d'une mère qui a renoncé à tout pour l'éducation de ses enfants. J'ai été étudiant en France. Hein. J'ai étudié à Nancy.
Votre mère est la Marème Faisal de Macky Sall.
Écoutez, Marème Faisal est comme toutes les femmes sénégalaises.
Toutes les femmes. Son mari l'a rendu hommage. Elle a tout laissé tomber pour le soutenir dans... en tout cas, ses objectifs pour le pays.
Amine, je suis sûr que vous avez rendu hommage à votre mère. Moi, mon père a rendu hommage à ma mère. Les femmes sénégalaises sont l'une des femmes les plus instruites, les plus travailleuses. Regardez qui sont dans les rues en train de vendre du tchap, du tchéré. Dans les cours des rues de l'école, depuis notre enfance, qui était là en train de vendre tout et n'importe quoi pour payer nos études? C'était qui? C'était nos mères. Elles ont toujours été là. Moi, je ne refuse pas de rendre hommage à Madame Faisal. C'est une femme sénégalaise. Elle a beaucoup donné pour ça, pour son mari, comme nos mères l'ont fait. Si c'est vrai, parce qu'elle a suivi le chemin de toutes les grandes dames de la nation sénégalaise. Tout simplement.
Bon, en tout cas...
On est content de voir ça. On n'est pas contre ça. On ne peut pas être contre ses valeurs. Mais la question, c'est de dire, et là, on parle de choses beaucoup plus concrètes, là, pour ne pas être sur des débats de personnes. Mmh. On a vu un président de la République qui, après six ans de pouvoir, au lieu d'écrire un livre à mi-chemin, un livre bilan, un livre projection, nous raconte sa vie comme sa vie était terminée.
Bon, en tout cas, voilà, après
c'est
chaque...
quand même extraordinaire, il faut l'avouer.
Chacun se fera son idée sur ce livre, Le Sénégal au cœur. D'ailleurs, après Richard, je vous ferai part de ma contribution où je l'ai titré « Parrainage de Benno Bokayakar au cœur ». Voilà, donc on en reparlera plus tard. Voilà, donc peut-être une dernière question. Vous parlez aussi beaucoup de la santé. Voilà, vous voulez qu'on s'oriente vers le business de la santé en relevant le plateau du Sénégal, de telle sorte que notre pays, voilà, au moins va attirer tous les malades de la sous-région. Voilà, que tout le monde puisse venir se soigner au Sénégal. Mais je le dis en wolof, balanganam nam nefa, il n'y a aucun homme politique qui se soigne au Sénégal. On les connaît tous ici. Ils viennent ici pour des check-up. Et vous voulez justement, qu'ils s'orientent vers la médecine du Sénégal. Moi, je dis, le jour où tous ces hommes politiques resteront se soigner au Sénégal, ah là, on se dira que, en tout cas, sur le plan médical, ils font tout pour relever notre plateau. Mais dès qu'ils ont voilà, je vais rester poli. Dès qu'il y a une petite toux, on vient faire un check-up en France ou aux États-Unis.
Écoutez, c'est triste comme une réalité. Nos hommes politiques préfèrent venir se soigner à l'étranger. C'est comme notre jeunesse qui aujourd'hui abandonne ce pays pour aller en France ou aux États-Unis. Moi qui vous parle, je suis émigré. La première fois où j'ai mis les pieds à Cheikh Anta Diop, j'ai vu la désorganisation qu'il y avait dans cette université. Pour la première fois de ma vie, j'ai douté. Je me suis dit, est-ce que c'est ici que je vais réussir? Et c'est ça que ressent tous les Sénégalais qui aujourd'hui arrivent dans les hôpitaux. Vous entrez dans les hôpitaux, vous allez vous dire, est-ce que je vais sortir ici avec une meilleure santé ou est-ce que je vais partir avec d'autres maladies? C'est ça que vivent les Sénégalais. Et ne vous y trompez pas. Quand je dis que derrière le modèle derrière une politique de santé, il peut y avoir une politique d'affaires, un modèle d'affaires qui permettrait même de financer les besoins de santé des Sénégalais par les autres Africains qui ont besoin de santé et qui malheureusement n'ont pas la stabilité économique que nous avons. Je ne suis pas en train de rêver, je suis en train de dire je règle le problème des Sénégalais, j'en profite pour aider les autres Africains à pouvoir se soigner. Et derrière, je mets en place un modèle qui permet de rendre les frais moins chers. Peut-être que quand notre génération aura réussi cela, enfin nous aurons des hommes qui n'auront pas la peur que les citoyens ont de se faire soigner au pays.
Allô?
Oui, vous m'entendez?
Oui, oui, on vous entend. Ouais.
Donc l'idée c'est de dire, oui, un leader doit montrer l'exemple. Mais au-delà de l'exemple, les gens ont besoin d'un service de santé et de qualité. Et la santé, c'est quelque chose, c'est une priorité, mais en même temps, elle est stratégique. Donc, si vous avez une logique de planification, vous n'allez pas regarder la santé uniquement comme un besoin qu'il faut régler maintenant. Il faut aller beaucoup plus loin. Et derrière tout système de santé, il y a un modèle de financement de la politique de santé. Et on est dans un continent où il y a 2 milliards d'individus. Bientôt, ils auront 2 milliards en 2050. Actuellement, on est un peu plus de 2 milliards d'Africains. On a besoin de manger, on a besoin de nous éduquer, on a besoin de nous soigner. Et on a besoin d'investir. Et le Sénégal est un endroit calme, est un endroit de paix, une démocratie stable. Aujourd'hui, si vous regardez les flux financiers en termes d'immobilisation, vous voyez que Dakar, pourquoi le foncier de Dakar explose? Parce que tous les hommes d'affaires africains qui ont les moyens viennent investir à Dakar. Ça, c'est un signe que si nous avons un système éducatif performant avec les nouvelles technologies, beaucoup d'Africains pourraient venir étudier au Sénégal. Comme ça, c'était d'ailleurs. Mais on peut l'augmenter en termes de volume. Du point de vue de la santé, c'est pareil. Donc, vous voyez que nous pouvons, à travers l'offre de services publics, travailler sur une offre de services qui sera beaucoup plus élargie et qui va nous permettre de récupérer des dividendes qui vont venir baisser la facture pour les Sénégalais. Donc, tout est question d'ingénierie financière et de modèle d'affaires. Derrière un besoin qui est urgent, nous pouvons avoir un modèle d'affaires qui va beaucoup plus loin. Mais ça, c'est un homme qui croit en son peuple, n'est pas là juste pour le pouvoir d'être là. La politique, pour moi, c'est d'abord une responsabilité et de la solidarité. C'est ça dont il est question. Une responsabilité et une solidarité envers cette nation qui nous a tout donné. Nous avons eu la chance de naître dans un pays où on pouvait avoir un dentiste si on avait des caries. On pouvait avoir un enseignant qui pouvait nous éduquer. Il y avait le Sénégal, nous avons cette chance-là. Donc nous qui avons la chance maintenant d'avoir peut-être évolué, nous devons redonner. Pour moi, faire de la politique, c'est redonner ce qu'on nous a donné quand on était enfant, tout simplement.
D'accord. Richard, c'est pour participer. On prend un dernier auditeur. Ce sera la dernière question avec notre invité. Allô, allô?
Oui, bonjour, Lamine.
Oui, bonjour, Kokan.
C'est Ghana, avec un fort.
Ah, Ghana, Aix-en-Provence, ça nous fait plaisir voilà. de t'entendre.
Eh bien, écoutez, moi aussi, Lamina, d'autant plus que l'invité que vous avez en ligne aujourd'hui, c'est un jeune frère que je connais très bien, pas plus tard qu'hier, on échangeait. Donc, c'était pour lui souhaiter la bienvenue déjà donc, sur vos antennes.
Merci.
Et vous dire que c'est une fierté de l'écouter parce que je l'ai connu à Nancy, puisque j'étais avec son jeune frère. On habitait dans la même chambre universitaire, son grand frère, pardon. Donc, je l'ai vu arriver très jeune à Nancy. Donc, c'est un parcours que je connais personnellement. Et donc, je suis très fier de l'écouter donc, aujourd'hui. Alors, Moussa, je sais que je l'ai connu, donc voilà. Il a tenté le retour, il a travaillé à côté de, aux côtés de Bamba Dieye en tant que conseiller. Moussa est un planificateur, hein, au passage.
Tout à fait.
Et moi, ma question, moi, mon intime conviction, et j'aimerais avoir son ressenti là-dessus, c'est qu'au Sénégal, ce ne sont pas les institutions, ce ne sont pas les lois ou voilà. Tout est en place. Le problème, c'est l'application de ce qui est en place.
Donc, absolument.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Ghana, on t'a perdu. Il est où?
Ah, oui.
Oui.
Vous m'entendez?
Donc, voilà, vous dites que...
Voilà, je disais que tout est, tout est mis en œuvre au Sénégal au niveau des institutions. Il reste que, que l'application des institutions. Tout à l'heure, Lamine, vous parlez de nos hommes politiques.
Je vous repère là. Allô, allô.
Ah, tout à l'heure, Lamine, vous parliez des de nos institutions. Allô?
Oui, oui, on vous écoute.
Oui, je disais la même chose, vous parlez de nos politiciens qui viennent faire des check-up en Occident.
Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre carrément une loi par rapport à ce genre de mouvement?
D'accord, on vous perd encore, hein. Je ne sais pas ce qui se passe.
Voilà, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Donc, vous voulez voilà. qu'on mette une loi?
Ah ben, complètement. Parce qu'aujourd'hui...
Mais quand même, où vous mettez la responsabilité de la circulation
non,
individuelle?
Ce que je veux dire, Lamine, ce que je veux dire, c'est que si on interdit à un ministre de la République un exercice de pouvoir venir se soigner en France ou où on veut carrément, je pense qu'au bout de deux mandats, il me semble qu'ils mettront un peu plus... De sérieux dans nos hôpitaux, dans nos... Voilà. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je le dis.
En tout cas, je le laisserai répondre, mais moi, je suis contre toutes ces formes d'interdiction. Il faudrait qu'il y ait la liberté, et quand même, malgré cette liberté, on doit pouvoir mettre des choses en place. Mais bon, je vous laisse
nous
avec...
Nous sommes bien d'accord, Lamine.
Nous
sommes
ami.
Bien d'accord, mais là où ça me gêne, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Et tout est ouvert. Les concernant, ils font ce qu'ils veulent. Donc, il serait temps de mettre quelque chose en place. Et je suis sûr que Moussa a les compétences en tant que planificateur par rapport à ces questions-là.
En tout cas, merci pour votre contribution et votre question. Et on laisse Moussa vous répondre.
Merci beaucoup.
Merci. Voilà,
merci,
Moussa.
Merci, Ghana. C'est un grand frère hein, qui m'a vu arriver en France avec quand j'avais 19, 20 ans, très jeune. Donc, en tout cas, je le remercie parce que c'est une personne qui a contribué à quelque part à être l'homme que je suis, tout simplement parce que c'est un exemple. Et c'est à ça que je crois. Moi, je crois au leadership, par exemple. Les bons comportements inspirent les autres générations. Comme disait l'autre, ne fais rien, n'interdis pas à ton enfant de faire le mal, montre-lui le bien et sois un bon exemple. Et ça m'amène à... Pour dire oui, je pense que c'est plus une boutade hein, de dire on va interdire au ministre de venir se soigner pour qu'il s'occupe de la santé. On devrait tout simplement commencer par élire des présidents qui se préoccupent véritablement de leurs citoyens et qui ne vont pas mettre de beaux-frères au niveau du ministre de la santé ou de l'eau ou de l'électricité uniquement parce que c'est quelqu'un qui est proche. Si notre santé n'avance pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de modèle d'affaires qui existe, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à payer, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'ingénieurs, c'est parce que tout simplement, on a des présidents qui n'ont pas de vision et qui s'entourent de personnes qui sont incompétentes et à qui ils demandent une seule chose, c'est de gagner leur base pour que lui, il puisse gagner les élections. Si c'est ça que vous demandez à un ministre, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore des gens qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, qui est au niveau des hôpitaux.
Écoutez, en tout cas, merci beaucoup vraiment, Monsieur Moussa Bala Fofana, pour vos éclairages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être levé très tôt. Et comme le disait Franz Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et j'espère tout simplement que vous, en tout cas, la mission qui vous est assignée, c'est tout simplement d'accomplir vos ambitions pour le Sénégal. Bonne journée et à bientôt.
Je vous remercie d'arrêter. Je remercie Star, je remercie vos auditeurs. Je passe un bonjour à la pays que j'ai bien connu. Salutations spéciales à un ami que j'ai à Marseille, Sileiba, qui se reconnaîtra.
Notre ami Imam Sileiba.
Imam Sileiba, écoutez, dans le même quartier, nous nous connaissons depuis l'enfance. Il a baptisé mon aîné. C'est un ami et un vrai ami. Donc, je tenais à le saluer. C'est un homme de qualité pour qui j'ai énormément d'estime, comme l'ensemble du peuple sénégalais, qui sont un peuple accueillant, un peuple qui croit au savoir, un peuple avec beaucoup de spiritualité, qui croit au travail. Ce dont on a besoin, c'est de nous organiser. L'organisation est la base du développement. On ne peut rien organiser sans planification. Le leader n'est pas celui qui est là dire ce qu'il faut faire. Le leader, il est là pour aider chaque individu à sortir le meilleur de lui. C'est le combat de notre génération. C'est le combat, c'est l'enjeu des prochaines élections présidentielles. Et Inch'Allah, Rabbi, si Dieu le veut, nous parviendrons, nous de l'opposition, et particulièrement du Parti démocratique sénégalais, de mettre nos intérêts partisans de côté et de nous focaliser sur la seule et unique chose, c'est de permettre au peuple sénégalais, au soir du 24 février, de choisir une nouvelle orientation. Et nous l'espérons, cette orientation aura comme objectif de donner au peuple sénégalais cette liberté qu'il veut, donner au peuple sénégalais beaucoup plus de services, de lutter pour le panafricanisme et de permettre aux Sénégalais de travailler et de pouvoir gagner leur vie dignement. Notre nation ne demande pas plus.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, notre invité Moussa Bala Fofana, donc, qui est un banquier au Canada, un banquier d'affaires, directeur de financement. Et puis, surtout, il est ingénieur de la planification et gestion de projets de développement économique. Richard, tu sais que c'est dans sa conclusion que j'ai su qu'il était membre de parti politique. Il a donc parlé du PDS. Je sentais que c'était un homme politique. Voilà. Mais voilà, je vous le dis, je ne savais pas du tout qu'il était du PDS. Mais voilà, chacun a le droit de s'engager là où il veut. En tout cas, ça nous a fait plaisir. Nous nous retenons l'aspect donc, économique, l'aspect de cet éclairage. On a besoin de cette génération, tout simplement, qui essaie de tout faire pour apporter une plus-value pour le Sénégal. Et nous, on vous encourage. Nous, on vous donne la parole. Donc, partout où vous êtes, partout où vous êtes en train de nous écouter, si vous avez envie de participer à notre émission, sachez que vous êtes les bienvenus. Ici, c'est une radio libre, une émission libre. Tout le monde aura droit à la parole. Les règles, les règles de Nyan, les règles de Nyan, parce que ay mag ñu ñuy déglu ay xalé ñu ñuy déglu et puis je pense on peut tout dire sans pour autant insulter, diffamer, faire du mal, dire gratuitement, donc faire de la palissade. Voilà, je pense que c'est des choses qu'on peut éviter. Mais sinon, à part ça, mom fi ku bëgg wax rek di nga wax. Richard, un peu de musique, je respire et on vient un tout petit peu sur la politique dure, très dure du Sénégal.
Biram jayi khujatan ngone jayi khujatan ayla tabakh dine magna wawa choli choli legi mile choli choli legi mile.
yakunu arbi ku ci melni yusundur mbaba ba mal jor fek jaram yakulen arbi papa ismail lo omar ban jaay mam jagam bay mi yakulen arbi
Voilà, en tout cas, merci grand Ndiogou donc qui nous a appelé Ndiogou Diagne. Merci beaucoup bien sûr à Matarli depuis le Canada qui est à l'écoute. Donc aussi j'en profite pour faire donc une dédicace à Ghana qui nous a appelé, ça fait plaisir Ghana de t'entendre à l'antenne. Voilà, donc tonton Diego Kouate. Voilà, tonton Ibumbaï depuis le Sénégal. Et puis aussi, Richard, mes adorables collègues avec qui j'ai partagé hier un dîner de fin d'année. Je pense bien sûr à Anne-Marie, à Valou, Marie-Hélène, Angèle, Sandrine, Aline, Domi. Voilà, donc, big dédicace à vous. Voilà, et puis tout simplement, à refaire, hein. Voilà, je pense aussi à...
Vous avez la chance hein, quand même de faire la fête de fin
d'année.
Pourquoi
vous en faites pas vous?
Non.
Non, ben écoute, nous on s'organise. C'est vrai, il faut quand même aussi remercier nos amis du comité d'entreprise, vraiment, qui bossent beaucoup aussi pour essayer de faire plaisir, en tout cas, à...
Nous, petite entreprise, on n'a pas cette chance.
Ah, c'est vrai que Richard, nous c'est une hyper, hyper grande administration, mais bon. On n'en dit pas plus, hein, voilà. Donc, du coup, aussi, je fais une big dédicace à Ndaye Satale Diop, voilà, à Yaye Ami Diop aussi depuis Paris, Nyom Momar Sohna Diop depuis Paris, voilà. Donc, il y a Nyop, Nyom Malik Youm, Modi Gaïba depuis du côté d'Avignon. Si vous avez entendu pratiquement les derniers, c'était des hommes politiques et des femmes politiques. Et là, j'aimerais tout simplement... parler de ce qui s'est passé ce cette semaine à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, non, il y avait la bagarre à l'Assemblée nationale, Richard. Et après la bagarre des députés à l'Assemblée nationale, Richard, c'était au tour de nos ministres de se bagarrer au Conseil constitutionnel. Voilà, tout simplement, ils se sont donnés en spectacle parce que, Richard, les candidats aux élections présidentielles, les choses sérieuses, le premier tour a commencé au fait. Le premier tour, c'est le dépôt des candidatures, donc dépôt des parrainages. Voilà, chaque candidat doit avoir 0,8% à 1% du fichier électoral. Donc, si vous voulez, c'est entre 53 000 parrains, le plancher, et 66 820 de parrains, le plafond.
Ah oui, c'est beaucoup quand même, hein?
Oh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup pour certains, bien sûr, mais c'est pas beaucoup, par exemple, pour le président Macky Sall. Et bien justement, sûr. Richard, tu me permets, comme c'est pas beaucoup pour le président Macky Sall, pourquoi le président Macky Sall a tout fait pour être premier lors des dépôts? Parce que lui, il a dit qu'il a 2 millions de parrains. Lui, il a dit qu'il a ses parrains. Effectivement, il va les avoir. Hein. Il faut arrêter de dire qu'il va pas les avoir. Non, il va les avoir. Mais moi, la question que je me pose... Pourquoi il se précipite jusqu'à ce qu'il y ait des bagarres là-bas? Donc du coup, j'ai fait une toute petite contribution, ma réaction, voilà, donc où je l'ai titré « Parrainage Benno Bokoyakar au cœur ». Et je disais « Benno Bokoyakar, ne devriez-vous pas être les derniers à déposer vos parrainages au Conseil constitutionnel? Benno Bokoyakar, n'auriez-vous pas eu la grandeur et même de la magnanimité pour laisser vos adversaires à la recherche du moindre parrain déposer d'abord leur parrainage? Dans un souci démocratique, bien sûr. Benno Bokoyakar, n'avez-vous pas bandé vos muscles pour crier sur tous les toits que vos parrains culminent autour des 2 millions d'électeurs? Et donc, pourquoi se précipiter? Benno Bokoyakar, n'est-ce pas vous qui vous gargarisez de gagner dès le premier tour avec 54% enfreignant délibérément l'interdiction de sondage électoral dans notre pays? Qui plus est, lorsque les chiffres ne reposent sur aucune étude sérieuse. Donc, Richard, au vu de tout cela, la question que tout le monde se pose, pourquoi autant de précipitation, monsieur le président de la République Macky Sall? Donc, Benno Bokoyakar, arrêtez de préparer les esprits. Parce que c'est dans un but, d'abord, un, de préparer les esprits. Et puis, tout simplement, lis une phrase que je dédie à mon ami Poupon. Comme on dit, « Djundju doyna borom khel ». Parce que ce n'est pas le jour du combat qu'on aiguise sa lance. Le président, il a déjà commencé. Le président, il a mis en place, en tout cas, tous les transhumants. Le président, il a mis en tout cas en place cette stratégie de vouloir déposer d'entrée de jeu ses parrainages. Maintenant, si vous m'écoutez très bien, certains, vous allez comprendre que je me suis laissé emporter quand même par la morale. Je me suis laissé emporter par mon émotion en attaquant Benno Bokoyakar. Mais si je me fige simplement sur le plan politique, moi, je dirais tout simplement que le président Macky Sall a eu raison. Mais il a eu totalement raison d'envoyer Mimi Touré au Conseil constitutionnel pour le dépôt de sa candidature très tôt. Mais et c'est légitime et c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique. À un moment donné, on met les émotions de côté, on met la morale de côté. Enfin, excusez-moi, l'éthique aussi fait partie de la politique. Mais en tout cas, dans ce cadre précis, on est en train de tout faire pour éliminer, liquider des candidats. Donc, je pense que le président de la République, mais bon sang, on est en politique, il a le droit de vouloir liquider ses adversaires politiques. Il va essayer de les mettre KO déjà, d'entrée de jeu, avec le dépôt des parrainages. Parce que quand vous voyez que Mimi Touré dit être venu à 15h45 au Conseil constitutionnel, 15h45. On devait commencer le 11. Elle est venue le 10 à 15h45. Mais bon sang, où étaient les autres candidats de l'opposition? Où étaient les candidats de l'opposition avant 15h45? Tous les candidats de l'opposition devraient y être très tôt avant 15h45, avant le dépôt des parrainages du président de la République. Il fallait lui faire un marquage à la culotte. Parce que j'en suis sûr que Benno Bokoyakar a dû fournir d'abord, si c'est intelligent, et je pense qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils se sont précipités, une liste de parrains qui pourraient être litigieux. C'est-à-dire les noms qui pourraient faire objet de doublons, les noms qui pourraient faire objet de triplons ou même de quadruplons. cartes de parrainage ont certainement été achetées. Achetées chez des électeurs sénégalais qui, malheureusement, ont pris. Eh oui, ils ont pris, sachant que seul le premier parrainage est validé. Eh oui, premier arrivé, premier servi. Donc, si le président de la République, dans ses 2 millions de parrainages, il en a 100 000 où il pense que c'est litigieux, mais il va déposer ce 100 000 parce que, n'oubliez pas, qu'après le délibéré, les candidats auront 48 heures pour rectifier les parrainages qui ont été rejetés. Et donc, du coup, le président de la République, il pourra bloquer, en tout cas, beaucoup de parrains. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas tout le peuple du Sénégal qui peut parrainer. La preuve, moi, je ne peux parrainer personne parce que je n'ai pas de carte électorale. Donc, les parrains sont ceux qui figurent sur le fichier électoral. Et puis, dans ces parrainages, vous le savez très bien, il y a des endroits où le président, il te fait pratiquement 100%. Je ne sais pas, peut-être je peux citer Diaoubé, le village de son... je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, on peut citer peut-être aussi même en France, Mantes-la-Jolie. Voilà, il y a des coins qui sont des coins vraiment du président de la République, Macky Sall. Donc, je pense que c'est de bonne guerre qu'il faille, lui, faire le nécessaire pour pouvoir déposer ses candidatures très, 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 très tôt. Et donc, du coup, là, j'estime, et je le dis, que l'opposition a encore failli. L'opposition a encore failli. Aujourd'hui, le président de la République est en avance sur beaucoup de choses et que l'opposition doit se ressaisir très rapidement. Et ceci m'amène à dire aujourd'hui, est-ce que l'opposition sénégalaise a une stratégie pour faire face au président de la République? Parce qu'aujourd'hui, le président, il a recruté tous les transhumants. Tous les transhumants qui traînent en tout cas autour de lui, ben, sont en train de rejoindre la prairie. Je peux vous citer quelques noms. Quelques, parce que si je cite tous les noms, nous allons finir l'émission alors que je n'aurai pas tous les noms. Souleymane Dene Diaye, Mour Diagne Fada, Ousmane Gom, Tchernolo, Bekay Diop, Sada Ndiaye, ma tante Aïda Ndiong, Serigne Bakay Ndiaye, ma tante aussi Awokoudou Ndiaye, Baldé tout dernièrement, le maire des parcelles Moussa Sy, le dernier allié Braya, d'autres, j'en ai oublié. Est-ce que face à cette façon de faire du président de la République, il faudrait avoir l'opposition une dizaine de candidats, une quinzaine de candidats, ou il faudrait, à mon humble avis, de manière beaucoup plus réfléchie, une opposition intelligente avec 3 ou 4 pôles de candidats? Moi, j'opte pour ces pôles de candidats pour éviter la dispersion des voix face au président. Parce que, quoi que l'on puisse dire, il continue à pêcher de gros poissons. Maintenant, reste à savoir si les militants sont aussi des poissons pêchés en même temps que leur chef ou s'ils sont des moutons de panurge. J'ose espérer que non. Car militantisme règne aussi avec conviction. J'entends dire que le Conseil constitutionnel veut limiter la candidature à 5. Je l'ai entendu avec mon ami Pape Alignan qui le disait. Mais nous n'avons pas la même analyse. Pape Alé dit que ce n'est pas normal. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais à condition, attention, je le répète, hein, c'est une bonne chose. Mais à condition que c'est l'opposition elle-même qui choisit ses candidats et non le président Macky Sall à travers son Conseil constitutionnel. Eh oui, il faudrait qu'on n'ait pas beaucoup de candidats. Il faudrait centraliser, mutualiser certains types de candidatures pour pouvoir éviter la dispersion des voix et faire face au président de la République. Mais si vous mettez 20 candidats en face de lui parce que, à cause de vos égos, vous ne voulez pas suivre l'un ou l'autre, ne venez pas pleurer ici demain si le président vous gagne au premier tour. Ce n'est pas encore fait, mais ne mettez pas les jalons pour que ça se fasse. Et on a de quoi faire 4 ou 5 pôles ou 3 pôles. Hein. On peut faire des choses, je donne des exemples, hein. Après c'est vous qui voyez, je ne dis pas. Oui, mais on peut faire des pôles avec des gens Sonko, un pôle Sonko, on peut faire un pôle pourquoi pas Karim Wade Khalifa Sall, ils ont le même problème. Donc Karim Wade Khalifa Sall, un pôle là-bas, un pôle avec le professeur Issa Sall, pur. Un pôle avec, je ne sais pas moi, Idrissa Seck. Je crois que je n'ai pas parlé de femmes. Je ne sais pas, un pôle avec Aïssata Tall Sall ou Aïdan Jong ou je ne sais pas. Mais il faudrait vraiment qu'on ait une certaine mutualisation pour pouvoir faire face au président de la République qui, coûte que coûte, va passer au premier tour. Les cartes électorales, rétention des cartes électorales. Certains ont des cartes et c'est écrit sur le dos de la carte, personne non autorisée à voter. Les transhumants qui y vont, le président qui fait tout pour éliminer les gens sur le parrainage. Je ne sais pas si on a une opposition consciente de cela. Donc aujourd'hui, j'espère tout simplement que l'opposition du Sénégal, la clé est entre vos mains. Et l'exemple qu'on a eu ici avec le président Macky Sall n'est pas loin, en hein, 2012. Hein. Benno Bokouyakar avec le président Ousmane Tanordien et le président Moustapha Niass, je pense que s'ils s'étaient mis d'accord, Macky Sall ne serait jamais président de la République du Sénégal. Mais pour des problèmes d'ego, Ousmane Tanordien, Moustapha Niass ont fait exploser Benno Bokouyakar. Et donc, du coup, bien sûr, il y avait la troisième voie qui était là, c'était la voie de Macky Sall. Mais il faudrait vraiment que vous reteniez les choses de vos erreurs. Ça, c'était en 2012. Il n'y a pas très loin, on a eu les élections législatives. Pour des problèmes de tête de liste. Manko Tahou au Sénégal ou Manko Khaou Malanak Lan, voilà les gars du PDS, les gars de Khalifa Sall, tout ça. Mais s'il vous plaît, si vous dites que il n'y a que l'intérêt du Sénégal, Molenior, si vous dites que l'intérêt du Sénégal est supérieur à tout, mais rangez vos égos dans les tiroirs et mettez la personne qui est en pole position et vous le suivez et vous êtes derrière. Moi, je l'ai toujours cru. Il y a des noms que je n'ai pas cités. Mais il y a de grandes personnalités où on a discuté à la veille. C'est le conseil que je leur ai donné. Bien sûr, je suis peut-être néophyte en politique. J'ai été renvoyé dans les falaises de Bandiagara. Et après les élections, voilà, on m'a dit oui, Lamine, tu avais raison. À un moment donné, il faudrait qu'on se dise, écoutez, si Richard est meilleur que moi, si Richard rassemble plus que moi, si Richard a les potentialités, si Richard a les capacités, si Richard a les compétences, si Richard a le talent, si Richard a même plus de chance, eh bien, je me range derrière Richard. Parce que l'intérêt, c'est tout simplement le pays. L'intérêt, c'est pour tout simplement tout le monde s'y retrouve pour l'émergence de notre pays. On a envie d'émergence, une vraie émergence. Donc, j'espère tout simplement que cette opposition sénégalaise fera de son mieux vraiment pour aller vers l'essentiel, vers l'intérêt du Sénégal, remettre la justice sénégalaise en place, remettre de la planification spatiale, comme certainement dirait Moussa Balla Fofana, remettre de la protection de l'environnement comme il faut. Je pense à mes amis de Saint-Louis-là avec la langue de barbarie. Et remettre l'économie du Sénégal sur les rails. Le conseil technique qu'on vient d'avoir, Moussa Balla Fofana, nous parle, lui, bien sûr, d'augmenter les recettes. Mais moi, de notre côté, je parlerai de la réduction des dépenses de l'État. Il y a de l'argent au Sénégal, qu'on arrête de nous dire que c'est un pays pauvre. Ce pays n'est pas pauvre. Mais il faudrait faire une priorisation et il faudrait injecter l'argent là où il faut. Bien sûr, que tous ces voleurs puissent être arrêtés et empêchés. Parce qu'on ne peut pas continuer à voler délibérément dans ce pays. Et quand on est avec le président de la République, il n'y a rien qui vous arrive. Quand on est contre le président de la République, on va en prison. Non, à un moment donné, il faut rétablir un ordre. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Nous adorons tous notre pays. Nous voulons tous que notre pays décolle. Il nous manque juste, je pense, pour certains et pour beaucoup, une dose de patriotisme. Et c'est ça qui fera décoller ce pays. Richard, je suis un peu essoufflé. Un peu de musique et on revient pour les 3-4 dernières minutes de cette émission.
d'enfants, sourire des enfants. Yobu na nyen wute nen den bay, way na kia la zeta nule.
Matangale, demande gul muna les oves, legi magna, fuma jarman dimale khale.
Boy, di mali mama jangi, khale mo your problem. Sumagi don president, bachima mo diaka. Batak na pagmi tete ko, de banku yalwano.
Asali wana mane di me malide,
we
malide, di me di anyu yala nyigui.
Ne ala,
wamato di me malide, di me di anyu yala nyigui. Odi me ra turti ma, odi me na so harande. O wali so di me ira.
Ne ala,
iyo na na nya omuna.
Voilà, Richard, c'est la fin de l'émission. Donc, Étienne est là. On va tout simplement lui laisser la place. En tout cas, merci beaucoup à Moussa Balla Fofana. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Et Richard, moi, je suis à la limite du burn-out. Donc, je pense que je vais te laisser finir l'année tranquillement parce que j'en peux plus. Là, voilà. Il faut à un moment donné
tu as raison. À force de mordre les chevilles, pardon. Hein, on finit par mordre la poussière.
Voilà, donc je suis lessivé et souvent c'est comme ça à la fin de l'année. Voilà, il est temps peut-être de décrocher un peu. Il est temps, Richard, de se mettre un peu en retrait pour se soigner, hein, pour se reposer. Et ouais, je suis vraiment fracassé et le burn-out n'est pas loin. Donc je te dis bonne année, Richard. Je dis à tout le monde, je vous laisse finir l'année tranquillement. Bonne année à vous tous. Et puis tout simplement, on reviendra en 2019, Inch'Allah, beaucoup plus frais. Inch'Allah, avec de l'innovation, mais aussi, ce sera le dernier virage avant les élections présidentielles du 24 février. Et comme le président Macky Sall, lui, pêche de gros poissons, ben nous aussi, nous essaierons de pêcher de gros opposants, ou pourquoi pas, un gros candidat à l'élection présidentielle qui s'appellerait Macky Sall pour le mettre à l'antenne. En tout cas, je vous laisse avec Étienne. Richard, bon courage avec les auditeurs et puis on se dit à l'année prochaine.
Merci Lamine, repose très bien, bonnes vacances et à très bientôt sur Radio Galère.
D'ailleurs, quand vous avez vu que vous avez vu votre carte d'identité, vous avez vu votre carte d'identité parce que c'est l'argent du Sénégal. Il faut le prendre. Nous avons récupéré votre carte d'identité. Te bañ ko joxé nak sous aucun prétexte. Ñu bind nañu fexé récupérer sen carte d'identité. Te bañ ko joxé nak sous aucun prétexte. D'ailleurs ku def lool da nga wara tej. Bu len joxé sen carte d'identité, ku len jox xaliss nak jël len ko parce que c'est l'argent du Sénégal. Faut le prendre.
Man ku ma xol ci yow man méré. Man ku ma xol ci yow man